L'émission gay de Radio Pluriel vous donne rendez-vous chaque mercredi de 20h à 21h sur Radio Pluriel.
Merci de nous retrouver pour cette deuxième émission de la rentrée 2018-2019. Mmh. Bernard a réintégré son bocal. Mmh.
Bernard, notre Mérou préféré.
Notre Mérou préféré.
Et puis il est concentré en plus.
Et puis espérons que la rentrée sera meilleure que les autres années, que l'année passée.
Ah oui, parce qu'on a eu beaucoup d'incidents techniques. C'est à ça que tu fais allusion, je suppose, Bernard.
Ah. Exactement.
Oui, espérons.
Je suis encore un peu dans les vapeurs de la Normandie.
Ah oui, ah, bah, et du Calva, etc. Et
voilà, quoi.
On le voit le nez dans le manuel, c'est pas très rassurant. Depuis tout
la radio
sur
pour les nuls.
Alors, donc, nous avons... Laurence est avec moi, comme d'hab.
Bonsoir.
Bonsoir, Laurence. Comment vas-tu?
Mais je vais pas mal. Ouais. Entouré de tout ce bleu.
Oui, on est tous en bleu. Enfin, les garçons, non,
Fabrice,
j'ai mon short bleu à Adidas.
Et en plus, je disais, il a des jambes magnifiques.
Hein. Ouais, c'est vrai, ça se voit pas à la radio.
Ouais, c'est vrai.
On ne voit pas.
Le short est pas mal aussi.
Oui, j'ai touché.
Tu l'as acheté, j'aimerais bien le même.
Ouais, c'est assez saillant en plus.
Ouais. Voilà. Donc, c'est Fabrice.
On va lui chanter la chanson de Mistinguette.
C'est quoi la chanson de Mistinguette?
T'as que t'as de belles gambettes. C'est ça.
Ah ouais, mais
on dit qu'il a de belles gambettes.
Ah, j'ai pas la même référence.
C'est vrai. Ah oui, c'est pas la même génération.
Bah oui, c'est ça. Oui.
Enfin, t'as remarqué que j'avais tout de suite compris. Donc,
c'est vrai.
J'ai de quoi m'inquiéter.
C'est vrai. Ouais.
Bah, vous avez le même âge avec Bernard.
Alors ça, c'est dur. Mais Bernard, lui, il ne vieillit pas.
Mais oui, il change pas, cet
homme. Non. Non, il reste le même. Donc moi, si j'atteins son âge vénérable et d'être comme lui, eh ben, je serai heureux.
Ah oui, mais très bien. Hein? C'est l'air normand, peut-être.
Oui, puis en plus, il a un beau teint à lait.
Oui, parce que maintenant, on bronze en Normandie.
Ouais. Oui, c'est ça. Le réchauffement climatique.
Juste une demi-journée de pluie.
Oh.
Voilà, là. Et là-bas, ils sont sans dessus-dessous parce que tout est jaune. Tu comprends? Ils ont l'habitude de l'herbe verte.
Oui, bien sûr.
Là-bas, tout est sec et ils sont traumatisés en Normandie. Les vaches aussi, d'ailleurs, il paraît.
Oui, les pauvres. Mmh.
Alors, en parlant de vaches, donc Michel...
Oh, bonsoir à tout le monde.
Attends, je veux dire, c'est moi.
Oui, non, mais là, ça vient, mais tu commences mal.
Non, mais je veux dire, c'est moi qui suis vache.
De oui, vas-y.
En plus, je me suis juré.
Vas-y, jure-toi.
Non, mais t'es peut-être une bonne laitière aussi.
Ah, pas du tout.
Ah, ça, j'en sais rien.
Hein. Personnellement, je te le dis pas du
tout. Faut demander à tes amants.
Eh bien, écoute, je ferai un estime, je t'enverrai tout ça par mail. Pas de problème.
Bon, Michel est là. Alors, comme d'habitude, tu vas faire de la figuration.
Voilà, tout à fait.
Et comme d'habitude, tu vas essuyer.
Tu m'as dit quoi tout à l'heure?
Nos vannes, c'est ça?
Ouais, essuyer, c'est un bien grand mot. Je vais plutôt nettoyer. Aujourd'hui, je vais amener le Karcher. Ça rappellera des bons souvenirs.
Voilà, et puis en fait, on va passer à notre invité quand même, c'est le plus important, dirais-je, Christiane.
Bonsoir.
Voilà, bonsoir Christiane, merci d'être revenue à l'émission parce que tu étais déjà venue il y a quelques années déjà.
Il y a 3 ans pour faire la promotion du Tigali qui était en 2015, d'où les 3 ans.
Voilà, alors effectivement le Tigali qui est le tournoi de sport organisé par l'association sportive lyonnaise Cargo, association à laquelle, Christiane, tu as adhéré depuis de nombreuses années et où tu joues.
Depuis, je pense, 2006.
2006,
ça fait quelques temps, on va dire.
Ah oui, presque au début, alors non, parce que Cargo, c'est... Tu sais pas, peut-être, hein, je te pose une colle. Ouais,
oui,
d'accord. Donc on passe à autre chose.
Si, je sais.
Ah,
je sais.
Ça va alors.
Au début, Cargo, c'était Lyon City Football Club. C'était du foot.
C'était que du foot.
Et ensuite, ils ont intégré, si je ne me trompe pas, ça doit être le volet. Et je crois que c'est à ce moment-là qu'ils ont fait le nouveau sigle Cargo, donc le cercle associatif Rhône-Alpin Gay Omnisport, avec le hand, la natation, le squash, le badminton, le running depuis 1 an. Est-ce que j'en oublie un de sport? Foot, hand, volley, badminton.
Elle a dit natation.
Squash, natation et running. Donc voilà, on est 7.
D'accord.
7 sports.
Le running, c'est les frontrunners,
voilà,
hein, qui ont intégré Cargo, en fait.
Tout à fait.
D'accord.
C'est bien ça.
Alors, donc, toi, Christiane, fais du badminton.
Voilà.
Et il se trouve aussi que tu as participé au Gay Games.
Voilà, j'ai participé au Gay Games à Paris cette année.
C'est la raison pour laquelle tu es là ce soir, parce que je voulais faire une petite émission spéciale Gay Games.
Bien sûr.
Voilà. Et je voulais des participants lyonnais, de préférence. Alors... Il y a donc toi, Christiane, en tant que lyonnaise, et Maxime Dupin, un de tes collègues adhérents de Cargo, de la natation, mais qui ne pouvant pas venir ce soir, je fais une petite interview à l'extérieur. Nous écouterons tout à l'heure. Ceci dit, pour lancer l'émission, Fabrice nous a préparé une petite sportive.
Bah oui, une petite chronique sportive. Moi, j'adore le sport, forcément.
Oui.
Donc, quand tu m'as dit que... T'allais faire une émission sur des sportifs, je me suis tout de suite senti extrêmement motivé. Bah oui, c'est vrai, c'est important d'être au contact de nos champions, de sentir leur force virile qui transpire à travers leurs exploits héroïques. Le short en nylon saillant qui laisse entrevoir la puissance de leur volonté. Le petit slip de bain qui montre les contours de leurs efforts à pénétrer l'eau toujours plus vite, toujours plus loin. Le sport, c'est ma passion. Et puis voilà, vient la triste réalité de notre studio de Saint-Priest un mercredi soir, en tête à tête avec Christiane, championne de badminton. C'est quoi juste le badminton, ce truc ? Une espèce de petite boule, on tape avec des mini-raquettes et des fausses plumes. Bref, un truc de lesbienne.
C'est pas tout à fait ça,
mais
je
non,
pense.
Je rigole, bien sûr, Christiane, je n'ai rien contre toi, tu l'auras compris. D'ailleurs, l'œil pétillant de Laurence, qui n'a probablement pas dû toucher un minou depuis plus de des mois, des semaines, des années, depuis qu'elle est maman poule célibataire lesbienne, en atteste. Fais gaffe, ma chérie, tu baves. Je constate juste qu'une fois de plus, les animateurs vedettes de l'émission se taillent la plus belle part du gâteau. Hein, Gérald, ça s'est bien passé l'interview avec Maxime ? Le beau nageur, d'après tes dires, la trentaine rayonnante et le sourire ravageur. Hein, vieux cochon, là. T'as fait ça où, dans les vestiaires, j'imagine ?
Non, à l'Institut du Lumière, au parc.
J'imagine dans déjà Gérald se pointer comme ça. Bonjour, c'est Radio Pluriel pour un interview. Oh, excusez-moi, vous êtes tout nuot, tenez votre serviette, dis donc, vous êtes drôlement musclé, vous aimez bien le sport. Attendez, je sors mon petit micro. Bref, une fois de plus, on nous laisse, Michel et moi, à nos fantasmes et sombres souvenirs traumatiques d'adolescents sensibles. Bah oui, parce que pour la majorité des gays, le sport, c'est quand même aussi une part non négligeable des traumatismes de notre enfance. Quel gay ne s'est jamais senti l'intrus dans les vestiaires du collège parmi ses camarades en pleine poussée hormonale prépubère, le regard fuyant, découvrant, ainsi que le beau Cédric lui fait de l'effet et que ça va devenir très compliqué de prendre sa douche en face de lui en cachant cet émoi qui pousse tel l'acné fleurissant sur son visage. Parce que pour nos sociétés, le sport a toujours une place particulière. Il fédère autour de nos champions les valeurs de courage, de partage et de persévérance face à l'effort. Bon, jusque-là, tout va bien, hein, ce sont de bien belles valeurs. Le problème, c'est quand les bien-pensants qui modèlent les repères de notre société cherchent à s'approprier tout ça pour nous faire passer un tout autre message, celui que le valeureux sportif est forcément un mâle blanc hétérosexuel. Je vous rappelle que dans les fondements de notre humanité, chez les Grecs antiques, les Jeux Olympiques étaient exclusivement réservés aux hommes. Bien que nos amis grecs étaient plutôt cool en ce qui concerne la sodomie, ils n'étaient pas très évolués en ce qui concerne les droits des femmes. 19 siècles plus tard, pour les JO de 1900, on compte 2,1% d'épreuves féminines. C'est donc tout naturellement que le sport a été, de par l'histoire, un terrain propice au combat féministe et sempiternel schéma archaïque de « moi, homme fort qui chasse et fait la guerre, toi, femme qui fait des bébés et prépare à manger ». On peut donc se réjouir de constater que pour les Jeux de Rio, un record avait été atteint avec une parité presque respectée. Oh là là, amis féministes, ne posez pas tout de suite les armes. La route est encore bien longue, il suffit de constater le tout petit écart de traitement entre nos footballeurs qui ramènent une Coupe du Monde et déchaînent les liasses d'hystérie dans toutes les rues du pays quand leurs homologues femelles gagnent une même Coupe du Monde en 2017 de handball et bah, que tout le monde s'en branle. Faut m'expliquer où est la différence, je veux dire, pourquoi les champions garçons sont en train de trier leurs millions pendant que les champions filles s'acharnent à racler les fonds de tiroir pour récolter quelques euros afin de payer la nounou et dégager un peu de temps pour participer à l'entraînement. La route est donc encore bien longue. On a encore en mémoire les points levés sur le podium de John Carlos et Tommy Smith au JO de 1968 pour protester contre le racisme et l'exclusion des Noirs afro-américains. Le sport c'est sexy, pardon, mais c'est aussi le terrain des luttes sociales. Alors toi, petit footballeur sodomite de mes fantasmes, toi la nageuse broute minou des bassins, chaussez vos crampons pailletés, nagez les cheveux courts parmi les vilains puritains et portez haut le drapeau de la nation arc-en-ciel pour qu'enfin nous célébrions tous nos champions sans distinction de race, de genre ou d'orientation.
Point final.
Point final.
Bravo.
Voilà.
Bravo.
Bravo. Alors, un encouragement pour nos sportifs LGBT.
Absolument.
Et moi, je tiens à préciser que si je bave ce soir, c'est parce que Fabrice a un très joli short bien moulant.
Oui, dis donc.
Voilà. Mais je commence à faire
un peu de
Boris déjà.
La semaine dernière, c'était Boris. Aujourd'hui, c'est toi.
L'année dernière, j'avais déjà senti quelque chose. Mais...
il se passe, on dirait qu'il se passe des choses.
Pourtant, hein, elle n'est pas célibataire. Hein, t'es pas célibataire.
Oui, je suis pas célibataire. Bah, oui.
Femme mariée.
Bah oui, elle fait mariée. Je... Ouais. Je suis fourchée.
Voilà. Alors donc, en fait, Christiane, si tu es là, donc on a parlé, on va parler des Gay Games essentiellement et de ta participation aux Gay Games, les Gay Games en général. Donc, ils sont tenus du 4 août
au 12 août,
au 11 août 2018.
Oui, oui.
Cet été, à Paris. Et moi, déjà, je voudrais savoir pourquoi tu as décidé de participer à ces Gay Games, tout simplement.
Un truc tout bête, tout simplement, parce qu'il y a un joueur de badminton de cargo qui m'a demandé de jouer avec lui en mixte, tout simplement.
D'accord.
À la base, je ne voulais pas forcément les faire, parce que j'avais fait ceux de Cleveland. Et voilà, il m'a demandé, je lui ai dit, bah, écoute, pourquoi pas. Voilà.
Elle disait et... tranquille, en tout cas, j'ai fait ce Cleveland, tout simplement.
Ce Cleveland, c'était ceux d'avant, il y a 4 ans.
En 2014.
Hein. Voilà, et c'est là que Paris a été choisi pour succéder.
Tout à
voilà.
fait.
Et la prochaine fois, ça sera à Hong Kong.
Tout à fait.
Alors du coup, alors, est-ce que tu as regretté ou pas d'être allé au Sega Games hein?
Regretter, on ne peut pas dire regretter. On va dire que j'ai été quand même déçue, surtout au niveau de la cérémonie d'ouverture. Qui est ouais. quelque chose normalement de juste fantastique, qu'une fois qu'on a vu ça, qu'on a participé, c'est quand même assez... Enfin, je ne sais pas comment l'expliquer, ouais, ouais. il faut le faire, c'est assez compliqué à expliquer comme ça à la radio.
Donc la cérémonie, il y a comme pour l'ouverture des Jeux Olympiques,
tout à fait,
toutes les équipes nationales
défilent. On défile tous, avec tous les pays, avec un stade qui est rempli, avec toute une ambiance, c'est vraiment, on a la chair de poule. Et,
d'accord. Et ça, cette sensation-là, c'est celle que tu as eue à Cleveland, en
à
fait,
Cleveland,
que tu n'as pas retrouvée à Paris.
Loin de là. Ouais. Loin de là. Malheureusement, loin de là.
Et pourquoi ?
Alors, pourquoi ? Parce qu'on a défilé un petit peu dans... On était dans un stade avec... Il y avait un immeuble à côté. On défilait comme ça. On avait l'impression... Enfin, moi, j'ai eu l'impression d'être en gros... comme un animal et que limite les gens pouvaient nous balancer des cacahuètes là parce qu'on défilait vraiment à l'écart du stade. On n'était pas dans le stade. Enfin, ils ont fait le tour du stade, le stade Jean-Bouin à Paris, pour ceux qui connaissent. On a fait le tour du stade, on est rentré dans le stade et après, on est arrivé au niveau, vraiment à l'intérieur du stade. Donc, ce qui est un peu bête, c'est qu'on n'a pas vu les autres pays défiler. Donc, vu que c'est la France qui organisait, on arrive les derniers. Donc, tous les autres pays avant, on ne les voit pas défiler. Donc, nous, on arrive dans le stade. Effectivement, pour nous, on a de la chance, il est complet. Je pense à la Belgique qui défile, on va dire, au début, peut-être d'autres pays qui ont dû arriver dans un stade où il n'y avait pas grand monde.
Oui.
Puisqu'il ne faut pas oublier que nous, quand on paye notre inscription, qui coûte un certain prix, il y a cette fameuse cérémonie officielle. Par contre, si un spectateur veut y participer, il faut qu'il paye. Et là, c'était la somme de 50 euros. Donc, je ne suis pas sûre qu'il y ait tant de monde que ça qui va participer.
Ouais.
D'où cette histoire que les joueurs belges, par exemple, ont pu rentrer dans un stade à moitié vide. Donc ça, je pense que c'est un petit peu bête.
Oui, parce que c'était par ordre alphabétique, donc ils étaient les premiers, sauf la ville de San Francisco qui traditionnellement défile toujours en tête dans tous les Gay Games. Et eux, ils ont vraiment défilé devant un stade qui était pas complètement vide. Enfin, moi, j'y étais, donc je peux en parler. Mais il y avait toute la rangée où on y était, enfin, comment dire, le côté du stade où on était installé, qui était aux trois quarts plein au début, à peu près. Et tout le reste de l'enceinte, c'est un stade de 20 000 personnes quand même. Et je crois qu'il y avait dans le stade 2 000 personnes. Donc, ça fait quand même vide, tu vois, dans un stade de 20 000 personnes. C'est le stade du stade français de rugby. Et donc, c'est quand même un joli stade de 20 000 places. Et s'il avait été plein, ça aurait été mieux.
C'est sûr. Même avec, je dirais qu'avec tous les athlètes, une fois que tout le monde était rentré, effectivement, on voyait un stade un peu plus rempli. Ouais. Mais encore que, pas tant que ça.
De toute façon, de l'avis de tout le monde, la cérémonie a été un fiasco, en fait.
Catastrophe.
Ouais, ouais.
J'étais déçue. C'était
Alors, pour quelle raison ? Parce que moi, en tant que spectateur, je peux encore en parler, c'est parce que d'une part, bon, certes, le stade, déjà, au départ, était... bon, déjà, on nous a fait venir des heures avant. Et on a poireauté 2 heures à l'extérieur, sous une chaleur torride, parce qu'il faisait 40 degrés presque à Paris, ce jour-là. J'exagère, on n'était pas loin.
C'est en période caniculaire.
Pendant la canicule. Voilà, on a attendu. Après, pour trouver notre entrée, il a fallu qu'on se batte parce qu'on nous faisait passer d'un endroit à un autre. Il y avait, on avait un semblant d'organisation, je veux dire. C'était plutôt l'inorganisation organisée que l'organisation. Et ensuite, quand on est arrivé dans le stade, bon, on a vu qu'il n'y avait pas grand monde. En fait, c'est un peu embêtant parce que c'est vrai qu'on aime bien quand même dans un stade. Il y a une émulation hein, quand on est nombreux dans un stade pour voir un événement sportif, pour voir cet événement-là en particulier.
Oui, c'était une ambiance.
Quoi. Voilà. Alors après, c'est vrai que le défilé était sympa, quand même animé par Alex Taylor et puis une comparse. Non, t'as pas aimé Alex Taylor ou,
C'est lequel?
Ah, c'est le gars, parce qu'il y avait deux personnes quand il y avait le défilé. Alex Taylor, c'est le journaliste anglais.
Okay.
Ouais. Et lui, il se débrouille bien parce que c'est son habitude. Et puis, bon, il était interactif avec les gens qui défilaient. Le défilé, j'ai trouvé sympa, regrettant effectivement qu'il n'y ait pas grand monde.
Oui, c'est vrai que quand on rentre dans le stade, effectivement, il y a tous les gens qui vous regardent. Ça, c'était le côté sympa. On va dire le côté sympa. C'est tout.
Voilà. Alors, parmi les délégations, ce qu'il y avait... Bon, alors, j'en parlais hier donc justement avec Maxime. Il me disait que la délégation française était la deuxième plus nombreuse, puisque, évidemment, c'est le pays organisateur, 2500. Les Américains étaient 3500. On peut dire qu'ils représentaient un tiers des participants. Mais c'est un peu leur truc à eux aussi, hein, le Gaga Games à la base. Et ils se préparent longtemps à l'avance, ils font des cagnottes chez eux pour pouvoir se payer le voyage. Hein, ils sont très dans l'émulation. Et la ville de San Francisco en elle-même devait avoir un tiers des représentants aussi. Hein, quand ils arrivent en tête, c'est massif. Puis après, quand on voit les États-Unis défiler, ils défilent par État déjà. Il y a l'État de New York, l'État du Minnesota, l'État. C'était impressionnant, on avait l'impression qu'il n'y avait qu'eux. Puis après, il y a eu la délégation française, évidemment, en dernier, qui elle était fournie. Alors on a eu droit à deux Marseillaises aussi. Alors ça n'a pas plu à tout le monde, l'histoire de. Il y a une Marseillaise improvisée. Personne n'a compris pourquoi. Parce que ça faisait. Tu t'en souviens pas?
Alors, non, je ne me rappelle pas, mais en fait, c'est un peu habituel quand on défile. Il y a la Marseillaise, on chante tous la Marseillaise.
Ouais.
C'est l'habitude. Enfin, je me rappelle que Cleveland, c'était ça.
Ouais.
Alors, je ne peux pas parler de Cologne parce que je l'ai pas fait. Mais par contre, j'ai fait les Out Games à Anvers et l'autre, je ne me rappelle plus, Montréal.
Ouais.
Où effectivement, quand on défile, on chante la Marseillaise.
D'accord.
Ça, c'est l'habitude.
Ce qui était émouvant, c'était de voir défiler des pays comme le Cameroun, d'autres pays africains notamment, d'Afrique subsaharienne, où l'homosexualité est pénalisée. Criminalisés, ils n'étaient pas très nombreux, mais ils étaient là. Il y avait le Cameroun, il y avait 3-4 pays comme ça. Et la seule délégation maghrébine, c'était l'Algérie. Il y avait 4 filles, ils étaient 6, et les personnes qui défilaient, c'était 4 filles, avec beaucoup de courage. D'ailleurs, et c'est, ce qu'il y a de bien, c'est que le public, ils a énormément applaudi quand même, parce qu'ils ont beaucoup applaudi la délégation algérienne et la délégation russe aussi.
D'accord. Voilà. Là, c'est vrai que nous, on n'a pas vu.
Voilà.
Pour le coup, nous, ça, on n'a pas vu.
Oui, voilà.
Et voyez, quand je vous parlais de Belgique, en fait, c'est les Algériens qui ont dû défiler devant un stade où il n'y avait pas grand monde.
Oui, c'est ça. C'est ça. Mais on a fait du bruit pour tous ceux qui n'étaient pas là. Et ce qui se passait, c'est que les délégations, au fur et à mesure, s'installaient dans le stade. Hein, c'est ça. Donc, ça a commencé un peu à remplir le stade. Et puis là, patatrac, le défilé est fini. Que se passe-t-il? Les discours. Et là, en France, on aime les discours. Les discours qui n'en finissent plus et qui ne servent qu'à l'autosatisfaction des personnes qui font le discours.
Qu'est-ce
qui
qu'on
ne
est
servent
chiant.
Que leur ego. Alors, des discours en français dans un stade où plus de la moitié des gens n'étaient pas francophones, n'est-ce pas? Au bout d'un moment, on a vu partir les délégations. Hein. C'est-à-dire que la délégation française qui restait plus longtemps, mais petit à petit, on a vu partir les Américains. Puis après, il y avait une grande soirée. En plus, il fallait y être à 23h. Donc ceux qui voulaient y aller, ils sont partis plus tôt. Et ça tchatchait, et ça parlait. Alors, la seule qui s'en est bien sortie, c'est la maire de Paris, c'est Anne Hidalgo. Anne Hidalgo, elle est arrivée, elle a fait 5 minutes de discours, bref, clair, concis, et c'était fini, ce que tout le monde aurait dû faire. Alors après, on en a eu tellement qu'on ne sait même plus qui on a vu.
Ce qui m'a un petit peu étonnée, je me permets
de
vous interrompre, c'est que les officiels sont arrivés quand même un peu en retard.
Ouais.
Théoriquement, tout ce qui est discours officiel, c'est au départ. Enfin, je me rappelle Cleveland, c'est tout se fait au départ. Si on a effectivement le blabla qui se fait au départ, les remerciements, tout ça, et ensuite on envoie le spectacle.
Le spectacle.
Et là, en fait, il y a eu un petit bout de spectacle, si vous vous rappelez.
Oui.
Alors, on est aussi les co-présentateurs, enfin les co-directeurs de Paris 2018 qui ont fait leur speech. Il y a eu un petit spectacle.
Ouais.
Et ensuite, à nouveau, et là, il y a eu les officiels. C'est un peu bizarre. Pourquoi elles sont arrivées si tard? Pourquoi elles ne sont pas arrivées au départ?
Voilà, ce petit premier spectacle. En plus, il y avait les cheerleaders, tout ça. Ça a commencé un peu à chauffer le stade. C'était pas mal. Puis après, tout le monde est parti. D'un seul coup, on a vu arriver tous ces officiels-là. Un discours que j'ai particulièrement noté, que tout le monde a noté, c'est celui du vice-président de la région Île-de-France, hein, qui est venu après Anne Hidalgo, qui a fait un discours de 10 minutes, mais chiant au possible, parce que le mec déjà en santé qui ne maîtrisait pas le sujet, déjà il commence à dire « seule l'homosexualité masculine est un problème dans le sport ». Alors les gens peuvent dire qu'il... Alors, il y a, non mais, je veux dire, l'homosexualité féminine est perçue différemment, mais c'est aussi un problème. La transidentité n'existe pas pour lui, il ne doit pas savoir ce que c'est. Et puis après, au moment où il a rappelé l'engagement de la région Île-de-France dans les Gay Games, etc., qu'il a cité l'engagement de Valérie Pécresse, la délégation française qui était là s'est mise à hurler, il s'est fait huer. J'ai apprécié, évidemment, parce que, évidemment, alors ceux qui n'étaient pas français, qu'on ne comprenait pas trop ce qui se passait, mais le type en question, il s'est fait à juste titre huer, parce que Valérie Pécresse a toujours montré une opposition depuis le mariage pour tous aux droits LGBT, donc c'était ridicule. Et en plus, il ne maîtrisait pas son sujet, visiblement. Et ça parlait, comme en ce moment, ça parlait, tout le monde s'endormait, les gens sont partis, et d'un seul coup, tac, le spectacle.
Qui repart, tout à fait.
Ça vous a réveillé sur ce coup-là.
Oui, mais qui a réveillé qui? Les deux pélos et trois tondus qui restaient dans le stade. C'est... Tout le monde était parti.
Heureusement qu'on est resté là, Laurence, en fin de compte.
Et le spectacle était très bien. C'est ça qui est pire. C'est des gens, des filles, des mecs. Il y avait même des danseurs handicapés.
Les danseurs handicapés, c'est juste, mais ce qu'ils font, c'est juste superbe.
C'était extra.
Quand on regarde l'heure, on voit, ils défilent vers. Enfin, ils font leur spectacle vers 11h, je crois.
Ouais.
Il reste un quart du stade. On se dit, c'est pas possible. Ouais. Ils ont bossé comme des tordus pour faire un super spectacle et il y a un quart de stade qui est là, qui les regarde. Pourquoi ils le font à ce moment-là? Pourquoi ils ne l'ont pas fait plus tôt?
Mais pourquoi ça vient de... C'est aussi de bordel que ça, je ne comprends pas. Quand on organise quand même des événements aussi importants...
Alors, ce n'est pas trop. Le prestataire de service est mis en cause, déjà, parce qu'ils ont pris un prestataire de service pour faire le spectacle. Un spécialiste de l'événementiel, en fait.
Mais j'ai entendu une histoire, j'ai vu sur Facebook une personne qui s'est fait une histoire.
Non,
ça,
là, là-dessus,
ça parle dans les couloirs.
Non, ça, je ne sais pas. Mais si je me dis que si c'est le même qui avait fait tout ce qui était, on va dire... Avant qu'on attendu, vous disiez sur le parvis avec les trois camions de food truck et les deux les deux bars là, les deux petits bars.
Mais ils marchaient pas les bars. Au bout d'un moment, il n'y avait plus de bière. Les Américains, ils étaient dégoûtés. Ils disaient, c'est quoi ce pays? On peut même pas boire de la bière à 40 degrés.
Je me dis qu'effectivement, il y a un petit souci. Et puis dans le stade, je crois, c'est vers 10h30, il y avait plus de bière non plus.
Ouais.
Effectivement, ah, bon. Ouais.
Alors, les étrangers, évidemment, c'est toujours le problème. Les gens qui viennent de l'extérieur, c'est un peu l'image de la France.
Ouais,
et on entendait les conversations, notamment des Américains, qui en ont profité pour t'accueillir en disant « ça, c'est bien les Français, aucune organisation. »
Oui, mais vous vous sentez
c'est
mal.
C'est le bordel en France. C'est vrai.
On se sent un peu mal. Moi, j'ai été un moment... J'ai pas entendu, justement, le discours du... Région Île-de-France, là. Malheureusement, j'ai pas entendu, j'étais partie ailleurs. J'étais dans le stade pour, justement, pour boire un coup, ce qu'il y a de le lire.
Ouais.
Et puis, donc, il y avait une queue, il n'y avait pas trop de monde pour une fois. On n'était pas 100, c'est-à-dire, on n'était que 20. Donc, parce que, effectivement, il y avait un petit souci à ce niveau-là. Et on entend un bruit de pshhh, on se demande qu'est-ce qui se passe. Et en fait, ben, c'est le fût de bière qui a été mal mis. Et puis, donc, à 22h15, ben, il y a quelqu'un qui dit il n'y a plus de bière. Voilà. Donc on se dit c'est pas possible.
Il pensait que c'était une kermesse.
Bah, peut-être, je pense.
Je sais pas. Enfin, moi je dis que quand même c'est un métier. C'est un métier de servir à des bières et tout ça. Je sais. Alors des bénévoles, il y en a eu. Là, il y a rien à dire. À ce niveau-là, ils ont eu des bénévoles. Après, peut-être un problème de formation. Je sais pas. Mais là,
il y avait un problème sur un prestataire qui avait été choisi et qui avait sorti effectivement.
Ça, c'était un limonadier.
Voilà, un limonadier qui avait sorti effectivement un joli phrase, un joli tweet homophobe. Effectivement, alors peut-être que ça vient de ça. Ils ont peut-être pris à la dernière minute. Mais c'est quand même fou d'avoir des événements. Et en arrivant.
Le limonadier en question, il était présent sur des événements comme la natation, justement, et ils l'ont viré littéralement. Il y avait.
Heureusement.
Ils l'ont dit rentre chez toi. Il n'était pas là directement, mais.
Mais après, ce que j'aime dans ce genre de tweet, c'est les excuses qui suivent.
C'est
excusé,
que...
mais c'était quand même assez pitoyable.
Après, donc, la cérémonie d'ouverture avait été organisée par des personnes du Paris Aquatique, je crois, qui, paraît-il, étaient verts de rage en voyant ce qui s'est passé, qu'ils se sont sentis floués. Alors déjà, c'était 50 euros l'entrée, donc ça a peut-être découragé effectivement les gens. Ils avaient tellement peur de pas, en fait, rentabiliser l'événement qu'ils ont... Même les bénévoles, au début, devaient payer la cérémonie d'ouverture pour assister dans les gradins. Moi, j'ai une copine qui était des bénévoles, qui faisait des vidéos pour les Gay Games. Elle a payé. Puis après, elle avait une place sur les bras parce qu'on leur a dit finalement c'est gratuit parce qu'ils remplissaient pas. Donc ils ont dit allez remplir les gradins, les bénévoles. Voilà.
Ils pensaient remplir un stade de 20 000.
Eh ben, en payant, oui, non, mais certainement, je sais pas, mais je pense qu'ils se sont fait rouler dans la farine jusqu'au bout par le prestataire qu'ils ont pris. Je sais pas qui c'est, mais ils se sont vraiment fait avoir. Les jeux de lumière étaient très bien, Fabrice.
Ah. On a déjà c'est un
régisseur lumière, donc. Mais je me dis aussi qu'ils ont peut-être attendu pour le spectacle, parce qu'il en avait besoin de la nuit, ils avaient besoin de la nuit pour les jeux de lumière, peut-être.
C'est possible. Oui, c'est possible, mais c'est plus. Ouais.
Mais ils ont vraiment attendu trop tard, puisque le spectacle commençait, c'était plus de 23 heures, et ils avaient fait un truc super, la chorégraphie, tout ça. Ça faisait de la peine.
Ben oui,
t'imagines, t'as bossé pendant peut-être un an à faire des trucs, et puis il n'y a personne dans le stade.
L'animateur qui se parlait à lui-même en français, en anglais, il a été payé pour ça?
Ah oui, j'espère pas. Le monsieur le loyal de la soirée, c'était une horreur. Mais une catastrophe! Le type, d'abord, on le voit arriver dans une espèce de chauve-souris là, qui débarque en haut d'un escalier. Bon, peu importe, ça pourrait être rigolo, mais le problème, c'est qu'il a fait que des jeux de mots foireux pendant toute la soirée. Mais c'était ridicule! Mais ridicule, à un moment donné, il a fait un mot sur God, My God, God Michet, tout ça.
Oh, c'est truc classique!
Mais t'imagines, à une cérémonie d'ouverture des Gay Games.
En fin de compte, on aurait dû y aller, là.
J'avais honte pour
les gens. On fait une émission de promotion des Gay Games et de sport.
Alors, perdu, les Gay Games aux États-Unis, ça se passe bien en général. Hein. On suppose qu'à Hong Kong, ça se passe bien. Il paraît qu'à Cologne, c'était parfait aussi.
Alors,
très
j'ai
bien.
Pas vu la cérémonie d'ouverture. Ouais. Par contre, après, c'était très bien. Ce qui m'a épaté à Cleveland, je m'étais dit peut-être que c'est qu'à Cleveland, on a eu un petit mot d'Obama en vidéo.
Ouais.
Et ça, et là, vous dites quand même.
Nous, on a eu Laura Fessel, elle était sur place.
Ouais.
Mais
Par
contre, ça n'est plus au gouvernement maintenant.
Un petit mot. Du président, ça aurait été pas mal, quoi. Je dis rien.
Eh oui, mais bon, toujours pareil, on sait bien, les Américains font toujours ça avec beaucoup de classe, n'est-ce pas? Mais on aurait pu s'attendre à mieux, quand même, de la part d'une ville comme Paris, etc.
Mais là, franchement, c'est honteux, quoi. Enfin, c'est pas juste, tu dis, ceux qui ont préparé la chorégraphie, mais c'est les sportifs aussi qui se sont déplacés, qui ont pris l'avion, qui ont fait des milliers de kilomètres.
C'est vrai. Alors, c'est vrai qu'après, sur le plan sportif, c'était quand même pas mal. D'abord, il y avait beaucoup de participants.
Non, c'était très bien organisé. Sur le plan sportif.
Ouais, sur le plan sportif, d'accord. C'était bien. C'est vraiment la cérémonie d'ouverture qui a été un flop. Après, le reste des événements, la cérémonie de clôture qui était réservée aux bénévoles et aux sportifs, donc je ne l'ai pas vue, mais paraît-il, très bien. Alors là, avec beaucoup de public, parce qu'il y avait les bénévoles, les sportifs qui étaient devant le parvis de l'hôtel de ville à Paris.
Non, la cérémonie de clôture, c'est à l'image de ce que fait le tournoi international de Paris, le spectacle du type habituellement, donc vraiment très bien. Alors qu'habituellement, la cérémonie de clôture, c'est... On peut la louper. C'est quelque chose qu'on peut louper, c'est pas gênant. Ce qui explique qu'il y a plein de gens qui sont partis et qui ne l'ont pas vu. Et là, c'est bête parce que malheureusement, ils ont loupé ce qu'il fallait voir.
Alors, il y avait un village, justement, des Gay Games, sur le parvis de l'hôtel de ville. Et toi, tu n'as pas trop aimé ce village.
Mais un petit village, j'ai trouvé relativement petit. Après, les horaires d'ouverture, 17h, 22h, ça me paraît un peu court. Ensuite, moi, il n'y avait pas grand chose hormis un peu du merchandising pour les Gay Games, de food truck, un truc pour boire, des choses pour boire un coup, et puis voilà. Elle tourait fait.
Alors, je dirais sur le plan positif, moi j'ai vu 2-3 événements. Bon, j'ai été à la journée foot, évidemment, j'ai entraîné mon mec à Orsa, il était enchanté. Il y avait d'ailleurs très peu de spectateurs, il y avait beaucoup par contre de participants des équipes filles, il y avait de très bons matchs au niveau technique. J'ai eu l'équipe de Minnesota contre Munich. Quand une équipe de Munich, ça jouait vraiment très bien et très physique. J'aurais pas aimé être sur le terrain parce que j'aurais fini par servir de ballon, moi, je pense.
J'ai oublié, c'est vrai que sur le village, il y a aussi des spectacles le soir. J'ai vu celui du dimanche soir qui était très bien. Après, il y en a eu d'autres. Alors, je crois que ça doit être le mardi, parce que mardi, c'était annulé, je crois, il y a une histoire d'orage. Donc, ils ont carrément fermé le village. Mais ça doit être le mercredi où il y a eu quelque chose où, apparemment, un peu bizarre. Je peux pas en parler plus, j'étais pas.
Moi, j'y suis allé une seule fois et c'est vrai que j'ai pas eu envie vraiment d'y revenir parce qu'effectivement, c'était un peu rikiki. Bon, il y avait une belle scène, mais le village était vraiment pas représentatif. Alors, il paraît, enfin, pas représentatif de ce que pourraient être les Gay Games à Paris, en tout cas. Et il est certain qu'il y a aussi, j'ai entendu, on a vu sur les réseaux sociaux que des groupes qui avaient été sollicités, des entreprises, ou je sais pas quoi, ont décliné aussi parce que c'était les Gay Games. Il y en a certains qui n'ont pas voulu. Et voilà, le sponsoring, au niveau du sponsoring, il y en a qui n'ont pas voulu associer leur nom aux Gay Games.
Je jouais à Cologne, il n'y avait pas forcément du sponsoring, mais enfin, si on voulait manger, il n'y avait pas que de food truck. Il y avait beaucoup plus de possibilités de se restaurer. Il y avait des tables, des chaises au milieu, justement pour favoriser un peu que les gens discutent entre eux. C'était vraiment fait différemment. À Cleveland, c'est aussi pareil. Mm. Pas forcément de boîte, hein, non, mais beaucoup plus de possibilités de
convivialité.
De convivialité, tout à fait.
Alors, c'est vrai qu'aussi, les tarifs, la fête, la grande fête de départ, c'était 80 euros pour entrer au Grand Palais. C'est quand même pas donné. 80 euros pour une fête, c'est quand même beaucoup. Il y avait un grand DJ, Ossine, je ne sais plus comment il s'appelle, tu connais toi peut-être, non, tu connais
rien,
toi. Il y a rien d'or, toi. Non. Voilà, mais enfin, bref, c'est un DJ mondialement connu. Bon, certes, c'était le Grand Palais, évidemment, le cadre est somptueux, évidemment, mais c'était cher quand même.
Les prix étaient un peu prohibitifs, tout à fait.
Ouais.
Il faut avoir un peu les moyens quand même.
Alors, sur le plan, positif, parce qu'il y a des plans positifs, alors, pas beaucoup de spectateurs dans les... Enfin, je n'ai pas tout vu, moi, j'ai vu au foot, il n'y avait pas grand monde. Encore une fois, le foot, c'était excentré en banlieue, c'était un peu loin pour y aller. C'était sur la vallée de la Marne, Bernard, tu sais, là où tu allais boire du vin blanc avant, Nogent-sur-Marne, c'était par là-bas, le foot. Et c'est vrai qu'il n'y avait pas de spectateurs, on était les deux spectateurs, le reste. Par contre, il y avait du monde sur les terrains, il y avait beaucoup d'équipes, il y avait des équipes de filles, il y avait des équipes de mecs.
Vous n'étiez pas que deux dans
c'est une plaine de jeu, il n'y a pas de gradin par contre, donc c'est moins gênant. Hein, il y avait toujours des gens qui regardaient, mais c'est des gens qui faisaient partie des équipes, quoi, tu vois. Il n'y avait pas grand monde.
Et vous avez payé votre place ?
C'est vrai qu'au niveau,
non, c'est gratuit, ça.
Au niveau des gens, mais tous les sports, on pouvait y accéder sans problème. Ouais. C'est moi, j'ai pu voir.
La plupart étaient gratuits.
J'ai vu le volley, vu l'athlétisme, j'ai vu du squash, effectivement, on rentrait sans problème. Mais les gens qui regardaient, c'était surtout des sportifs à la base.
Ouais. Mmh. Oui, c'est ça, exactement.
Après, j'ai vu le gala de danse qui était très bien, par contre, pour le coup.
Oui, alors.
Ou là, c'était payant aussi, sauf si on faisait un peu de volontariat avant, et donc on pouvait y accéder gratuitement.
Alors, moi, il se trouve que j'étais au gala de danse aussi, et ça, juste le gala final, pas la compétition.
Non, le gala.
Comment ça se fait ? Il y avait du monde quand même, dans le gymnase en question. Et c'est vrai que c'est dommage parce que.
On comprend rien par moment. Il y a du monde, il n'y a pas de monde.
Non, s'il y avait des événements, il y avait du monde au gala de danse qui était payant.
Non, mais tu sais, moi, avec Laurence et puis Fabrice, on ne peut pas se payer un DJ à 80 euros. Nous, c'est DJ ZZ.
Oui, non,
c'est beaucoup moins cher par contre.
Mais non, attends, moi je suis pas.
C'est Bernard qui viendra mixer.
Ah ouais,
c'est
super.
Mais après, c'est les Gigames.
Oui, oui, moi au Grand Palais, je ne suis pas allé. Hein. Je dis ce que j'en ai entendu dire.
Les Gigames, c'est ça. C'est-à-dire, il y a des soirées tous les soirs. Après, si vous avez les moyens, c'est bien. Si vous ne les avez pas, vous ne faites pas les soirées. Ouais. Mais effectivement,
mais par contre, c'est vrai que le gala de danse qui était payant, il y avait du monde. Le gymnase, il était plein. Et c'était super bien. Et en plus, ça tombe bien parce que en fin d'émission, je vais passer l'interview d'une personne qui s'appelle Maud Mangieri et qui va animer un stage de tango cuir, un stage, des cours de tango cuir à la MJC Confluence. Et il faut savoir que ce n'est pas de la danse sportive, ce qu'elle fait, tel qu'on l'a vu au Gay Games. Au Gay Games, c'est de la danse sportive. Donc, c'est très chorégraphié, etc. C'est très beau d'ailleurs, hein. C'était le tango, j'aime bien. Bah, voilà. Bref, alors, les côtés positifs aussi, le Casino de Paris, c'était bien. C'était bien, il y avait une soirée au Casino de Paris, peut-être que tu n'y as pas été, et il y avait notamment une chorale, il y avait un spectacle avec les chorales qui étaient invitées, et il se trouve que la seule chorale française, c'était à voix et à vapeur. Il n'y avait même pas les chorales parisiennes qui sont venues. Ouais, pareil, parce qu'il fallait payer, c'était cher aussi. Il y a 5-6 chorales sur Paris, il n'y en avait aucune, il y avait à voix et à vapeur. Et à la fin, il y avait des chorales du monde entier qui ont fait un show improvisé, ils avaient répété toute la journée, ils ne se connaissaient pas, ils parlaient anglais, français, espagnol, ils sont tous retrouvés, et le soir sur la férule, la baguette d'une chef australienne, ils ont, ça c'était réussi, c'est très émouvant, c'est très bien, ils ont fait leur spectacle tous ensemble.
Ah, ça devait être chouette.
Ouais, le chœur à voix à vapeur a eu sa partie, ils ont fait 20 minutes à peu près, et à la fin il y a eu après tout un spectacle au Casino de Paris, et ça c'était réussi, et à la fin il y avait tous les chœurs, et le seul chœur français, Lyon, à voix et à vapeur, ouais, voilà, on est un peu les cocoricos, mais il faut dire que même les chœurs parisiens ne s'étaient pas investis dans cet événement-là, apparemment pour des raisons d'argent, parce qu'il fallait payer, etc. etc.
Bon, oui, les frais d'inscription à 140 euros, tout le monde n'a pas les moyens.
Voilà. Alors, du
mais coup, les résultats, quels sont-ils ?
Y en a eu plein, il y avait tellement de sports.
Mais Christiane ?
Oui, j'ai fait des médailles.
T'as eu des médailles, toi ?
Oui. Alors.
On va parler après des médailles, je voudrais qu'on parle de Maxime Dupin, enfin pas qu'on en parle, qu'on écoute son interview, j'ai faite donc hier. À l'Institut lui.
Avec Maxime Dupin, qui est un sportif qui a participé au Gay Games cet été à Paris. Donc tu as accepté de témoigner, on va dire, de répondre à mes questions en tout cas. Dans quelle discipline sportive tu as concouru ?
Natation.
Natation, ce que tu pratiques ici aussi à Lyon, dans le cadre de l'association Cargo.
Exactement, oui, avec Cargo depuis bientôt 2 ans.
Pourquoi avoir choisi de faire de la natation dans ce contexte-là, c'est-à-dire dans un contexte bien précis, celui d'un club LGBT, voilà.
Alors c'était pour l'ouverture aux autres, passer à autre chose que parce que je fais aussi partie de Lyon Natation. Donc du coup ça me permettait de rencontrer de nouvelles personnes qui étaient dans la même optique que moi, sportive, et puis en termes d'égalité, d'inclusion, tout ça. Voilà. Surtout sur ces valeurs-là. Du coup c'est pour ça que je me suis inscrit au Gay Games, parce que l'année passée j'ai participé au tournoi international de Paris. Grosse ambiance, bon esprit, et donc du coup dans la continuité je me suis inscrit tout de suite au Gay Games pour l'année suivante, voilà, qui était à Paris, donc qui était plutôt accessible.
Donc c'est la première fois que vous participiez au Gay Games, mais pas la première fois que vous participiez à des compétitions.
Oui, c'est pas mes premières compétitions en natation, vu que je suis une novice, c'est ma 5e saison en natation. J'ai commencé en LGBT aussi avec Cargo. Voilà, toutes mes premières compétitions c'était avec eux, et je viens de commencer les compétitions fédérales la saison dernière.
Alors les Gay Games, on entend souvent dire par les détracteurs que c'est un concept communautariste. Voilà, ça c'est du côté le plus dur. Et le côté le plus critique, c'est communautariste, c'est se renfermer sur soi-même. Toi, au début de l'interview, tu parlais d'inclusion. Oui. Donc, qu'est-ce que tu pourrais répondre à quelqu'un qui dirait « Oui, mais pourquoi se retrouver entre vous ? Exclure une partie de la population ? Retrouver justement des sportifs gays, des sportifs lesbiennes, trans ?»
Alors, j'ai pas du tout vécu ça comme... un esprit communautaire. Au contraire, ça va bien plus loin. On a aussi bien des personnes d'un certain âge, des jeunes. On a aussi des hétéros que j'ai rencontrés au water polo, en natation. Enfin, je veux dire, c'est vraiment l'ouverture à tout le monde dans un contexte où on regarde pas, on s'arrête pas à des préjugés comme la sexualité, où on sait que dans le sport aujourd'hui c'est une problématique qui existe et dont personne ne parle. Donc c'est vraiment passé au-dessus de tout ça, et c'était vraiment ouvert à tous. C'était de bonnes valeurs, une belle expérience, et ce qui permet après sportivement à des gens qui sont comme moi, pas forcément des professionnels, c'est d'aller plus loin, de vouloir avoir cet esprit de compétition. Et donc moi ça m'a même engagé sur des compétitions fédérales où je ne serais peut-être pas allé à la base, quoi.
Il reste beaucoup de choses à faire dans le domaine du sport en général par rapport aux discriminations. Alors on parle des discriminations sexistes, et on a pu voir récemment avec Serena Williams ce qu'elle considère avoir été une forte discrimination sexiste, voire raciste aussi, ben, d'ailleurs, ouais. Au tournoi donc de tennis de l'US Open. On sait que dans certains sports, en tout cas, on va parler du football, parce que c'est souvent celui qui vient à l'esprit. On parle plus particulièrement d'homophobie dans ce sport. Si les problèmes de racisme ont bien été traités, en tout cas en amont, avec des résultats plus ou moins réussis, pour ce qui concerne l'homophobie, ça reste encore un tabou, c'est une discrimination non reconnue. La légitimité de ces jeux vient de ce constat, qu'il existe encore une discrimination.
Exactement, je pense que tout est à faire. Dans nos sociétés d'aujourd'hui, il y a beaucoup trop de tabous sur la discrimination, que ce soit aussi bien le racisme, comme tu dis, on a fait des avancées. Après, il y a aussi la grossophobie, plein de choses comme ça qui sont bêtes, mais de pouvoir en parler, verbaliser dans notre société aujourd'hui, c'est indispensable pour que les choses évoluent. C'est comme l'aspect de la gay pride qui peut paraître trop extraverti, mais aujourd'hui, si on n'a pas de visibilité, on est discriminé. Donc autant exister, que tout le monde s'entende et que tout le monde se comprenne.
En général, est-ce que tu trouves que dans le milieu de la natation, le phénomène de LGBT-phobie est aussi présent que dans d'autres sports? Je pense aussi à certains sportifs et sportives de la natation qui ont réalisé leur coming out.
Je pense que la natation est aussi un sport qui a quand même une grosse connotation homosexuelle, et donc du coup, elle n'est pas vécue comme elle le devrait, je pense, au niveau pro. Et donc ouais, il y a beaucoup de choses à faire.
Une grosse connotation homosexuelle, c'est-à-dire?
En règle générale, on est section cargo, on est quand même un bon nombre de participants inscrits homosexuels. On se rend compte qu'en fait, en nageant, même dans les clubs hétéros, que quand même, il y a une bonne base homosexuelle, avouée ou non. C'est vraiment important, quoi.
Bah, merci de ton témoignage, Maxime. Alors, je ne sais pas si tu as eu des médailles au Gay Games.
La médaille de participation, malheureusement.
Très bien. L'essentiel, c'est de participer, comme on dit. Et bah, merci en tout cas d'avoir répondu à mes questions pour Pluriel Gay. Et bah, je te souhaite bonne continuation dans ton activité sportive.
Et bah, merci à toi de m'avoir reçu et c'était sympa.
À très bientôt.
Pluriel Gay, la seule émission LGBT sur Lyon et sa région. Chaque mercredi, de 20h à 21h, sur Radio Pluriel.
Non, pas de musique, frappe-le. Donc, Christiane, du coup, toi, tu as gagné des médailles, contrairement à Maxime,
oui,
c'est ça?
Oui, j'ai gagné deux médailles.
Alors, deux médailles?
Deux médailles, pas d'or. Malheureusement, une médaille d'argent simple dame, B+, bref, et une autre médaille en double dame.
D'accord.
Médaille de bronze, pour le coup.
Oui, parce qu'il y a effectivement des médailles, hein, c'est fait dans les règles de l'art, etc. Alors, par contre...
Mais déjà, excuse-moi, je te coupe. Si je me souviens bien, pour le dernier Tigali, tu avais remporté pas mal de médailles. Non ?
Alors moi, je ne joue pas quand c'est le Tigali, j'organise. Donc je ne peux pas et organiser et jouer. Bon, c'est le seul tournoi que je ne peux pas faire, que je ne fais pas. Je pense...
Tu peux faire un compliment,
mais
ça.
Si... Non, mais si.
Ah bon ?
Elle drague, elle drague.
Elle drague, en fait, voilà, c'est ça. Donc du coup...
Incroyable. Bon ben voilà, ça a foiré. Merci Christiane.
De rien.
Ça fait plaisir.
Alors Christiane, quand t'entends dire justement que c'est des jeux communautaristes, qu'en penses-tu?
Non, c'est pas du tout communautarisme, parce que justement tout le monde est accepté.
Oui.
Tout le monde, hétéro, homo, trans... jeune, vieux, enfin voilà, quoi. Ouais. Tout le monde peut venir.
Oui, d'ailleurs, j'ai vu que le sportif, pardon, le plus âgé, avait 83 ans quand même.
Oui,
je ne sais pas dans quelle discipline il était.
Mais moi, j'en ai vu un en athlée, je pense qu'il a bien 60 ans, ouais. Parce qu'en athlée, il y a même plus des 60 ans qui couraient. Donc voilà, mais tout le monde est accepté.
En revanche, il y a certaines disciplines où, Maxime le disait, notamment en natation, il a vu des choses extraordinaires. Par exemple, un mec qui a fait un 100 mètres en 53 secondes. Ce n'est pas un record olympique, mais c'est beaucoup quand même.
Ah, il est très bon, il est très 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 bon niveau.
Oui, il y avait du niveau aussi. Hein. Il n'y avait pas que... Parce qu'on a l'impression de dire, ouais, c'était pour s'amuser, mais les gens qui étaient là, bon, comme je dis, le foot, par exemple, c'est peut-être à l'image du foot que j'ai vu, parce que l'équipe que je décris, la américaine contre les Allemands, ils étaient très bons. Puis à côté de ça, j'ai vu un autre match, les Panam Boys de Paris. Ils allaient bien, mais ils ont affronté une équipe de Boston et ils avaient fait la fiesta toute la nuit. Alors évidemment, ils se traînaient sur le terrain et ils sont pris 6 pruneaux quoi, en l'espace de 10 minutes. Donc évidemment, mais il y avait un peu les deux côtés. Il y en avait qui étaient vraiment là pour la gagne, hein, qui voulaient faire des exploits, jouer. Et puis d'autres, bon, c'était un peu, allez, on est à Paris, on fait la fiesta. Voilà, un peu plus léger quoi. Après, une personne de 83 ans, je sais pas où elle était, c'est sûr qu'elle va pas faire un exploit. Hein, c'est certain.
Ça dépend, c'était peut-être un exploit pour elle-même.
Oui, exactement.
Il y a
aussi, non, mais c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Parce qu'il y a cette dimension-là aussi au Gay Games. Notamment, il y a aussi une personne qui participe depuis pratiquement l'origine, qui est malade du sida et qui a été diagnostiquée pratiquement au début de l'épidémie à San Francisco et qui depuis a toujours participé au Gay Games comme une victoire parce qu'il était persuadé qu'il ne vivrait pas. Et il a survécu, c'est un survivant, et il était encore à Paris, là. Il y a ce genre de choses aussi au Gay Games, c'est pas...
Là, c'est sûr, voilà. Ça doit être quelque chose de super important pour lui, quoi. Voilà. Enfin, les Gay Games, pouvoir participer, pour lui, ça doit être juste... Voilà.
On n'est pas que dans la compétition, mais il y a, comme les Jeux Olympiques ou n'importe où...
Il y a une notion de compétition, mais il y a aussi une grosse, grosse notion qu'il faut vraiment avoir de fair play. On est là aussi pour s'amuser, pour gagner, parce que quand même, hein, on n'est pas là pour faire figuration, effectivement, mais aussi... on est là pour jouer de façon la plus correcte, conviviale possible.
Ouais.
Donc c'est, je pense que la ville de Paris et les organisateurs, en fait, ils ont sous-estimé en fait l'importance que ça avait pour les athlètes et surtout ce que tu viens de dire, le message important de tolérance envers toutes les catégories de personnes.
C'est vrai que nous, on a commencé sur une note un peu négative parce qu'il y a eu le fiasco de la cérémonie.
Un petit peu.
Non, mais c'est vrai, c'est dommage. C'est dommage
parce que
ça a envoyé une mauvaise image. Mais le reste, quand même, c'est, dans l'ensemble, ça s'est bien déroulé. Quand même.
Je vois les volontaires, enfin les bénévoles, il y avait un nombre de bénévoles à chaque fois par sport. Et c'est comme...
Il y avait au moins 3000 bénévoles.
Je pense que là, quelque part, il y a quand même une. Les Parisiens, enfin, plus d'autres, hein, parce que je sais qu'il y a des Lyonnais qui ont été aussi sur. Enfin, des Lyonnais, certainement d'autres villes. Hein, moi, je connais pas, mais bon, je sais que sur Lyon, il y a avait des gens qui y sont allés pour faire bénévole. Donc là, on peut pas dire qu'il n'y avait pas de bénévoles, c'est faux. Il y avait énormément de bénévoles.
Michel, j'ai entendu dire que dans 4 ans, ils vont... le lancer de sac à main. Donc, je pense que...
J'ai déjà passé le concours. J'étais à San Francisco il y a 2 ans. Je pense que je ne sais pas encore. Et j'ai pas gagné, je suis arrivé 5e.
T'étais dans la catégorie Balmain, Pochi...
Non, pas du tout.
Non.
Non, mais j'étais Non, parce que j'avais pas beaucoup d'argent, donc j'ai commencé, mais c'était pas mal. Troisième,
Déjà,
c'est la chose qui manquait, c'était le poids. Il fallait mettre un poids dedans. Et je suis sûr que je t'avais vu en face. Mais bon, après ça, c'est une question d'expérience.
Bon, voilà, sur cette note de bonne humeur, on va devoir se quitter malheureusement parce que je voudrais bien qu'on entende l'interview de Maud. Donc, alors si vous êtes intéressé, allez-y, c'est demain à la MJC Confluence.
Mais c'est pas que demain.
C'est demain, premier début. C'est la cour de présentation. Voilà.
Heureusement, Laurence était là pour le mettre un peu au pli.
Et je rappelle donc qu'effectivement, il y avait de la danse au Gay Games. Voilà. Alors, Christiane, je t'invite à revenir à l'émission l'année prochaine, avant le Tigali, puisque l'année prochaine, tous les 2 ans, le Tigali a lieu. Et il y aura peut-être le lancer de sac à main ou
je serai présent.
Oui, il y aura le lancer de scie aussi.
C'est vrai?
Oui. Et donc, tu pourras participer.
Ah là là. Voilà. J'ai toujours aimé jouer à la scie.
Lancer de quoi?
De scie.
De fossile. Ton fossile, tu le jettes comme ça.
Pardon, excusez-moi.
Donc, moi, je le fais à la fin d'un spectacle.
Non, mais on rigole. C'est quoi? Tu sais, quand t'aimes bien Michel, c'est pour ça.
Je rigole plus maintenant, c'est fini.
Bon, ça rigole plus. Christiane, tu reviendras. Ouais. On va passer à l'interview de Maud Mangieri, donc, qui va nous expliquer ce qu'est le tango cuir. Voilà. Bernard. Au revoir tout le monde. Merci Christiane. On se retrouve l'année prochaine.
Merci,
Christiane.
Merci à vous.
Centre LGBTI en compagnie de Maud. Alors Maud, vous êtes venue de très loin, du Puy-en-Velay, spécialement pour nous voir ici au centre LGBTI, mais c'est aussi pour une autre raison importante pour vous, puisque c'est vous qui allez nous en parler. En fait, vous allez vous présenter, nous dire pourquoi vous êtes ici aujourd'hui, le 5 septembre 2018, au centre LGBTI.
Bonjour Gérald et bonjour à tous. Je suis venue du Puy spécialement pour présenter nos nouveaux cours de tango et de bachata tango et de kizomba. Je suis Maud Mangieri, une prof de tango argentin, et nous allons faire du tango queer à la MJC Confluence à Lyon 2. Et aussi essayer de faire des partenariats avec le centre pour organiser des soirées et des stages. C'est une association qui est basée sur le Puy, qui également forme des élèves au tango queer.
Alors, il faut être sacrément motivé pour venir du Puy jusqu'à Lyon pour présenter votre projet. Alors déjà, pourquoi Lyon et qu'est-ce que le tango queer? Voilà, ça fait 2 questions. Première, pourquoi Lyon? Parce que vous venez quand même, c'est un investissement, il faut venir de si loin.
Tout à fait, Gérald. Alors, en fait, on a déjà commencé une prospection l'année dernière. On a fait des démos à la Casa Lola, l'Étoile Opéra, au El Bar. Et ensuite, ça a donné des ateliers tous les 15 jours. Pour essayer d'avoir déjà quelques élèves et pouvoir investir un lieu qui offre la possibilité de tenir des cours de manière régulière et d'avoir une aura assez large comme la MJC Confluence. Donc je les remercie parce qu'ils font quand même ils donnent un coup de pouce très très agréable pour du tango queer. Alors le tango queer, qu'est-ce que c'est? C'est un tango insolite. C'est-à-dire qu'on va ouvrir les cours aux personnes solo ou duo, peu importe l'orientation sexuelle, qu'on soit hétéro, homo ou autre, trans, bi, on s'en fiche. En fait, ce qui va nous réunir, c'est la danse, et notamment le tango, la bachata tango, la kizomba. Et on va pouvoir faire les 2 rôles, selon les besoins, soit cavalière, soit cavalier. Et ça, c'est une opportunité d'avoir des cours réguliers sur Lyon. Il y avait déjà des manifestations avec Unidance et qui vont proposer aussi fin septembre une milonga. J'y participerai avec plaisir, leur faire un petit coucou. Et j'espère aussi faire avec eux de futurs partenariats, puisque plus on est nombreux et plus on va avoir de la force et on va pouvoir aussi vivre simplement et de manière agréable.
C'est-à-dire que les couples vont se former un petit peu au hasard des connexions. Il n'y a pas de règle établie ou préétablie. Le couple n'est pas obligatoirement mixte, donc un homme, une femme. Ça peut être deux hommes, ça peut être deux femmes, ça peut être un homme, une femme. Peu importe son orientation sexuelle ou son identité sexuelle.
Voilà, vous avez tout bien dit.
Alors, moi, il y a une question qui me taraude un petit peu parce que je suis pas très spécialiste de la danse. Il existe plusieurs types, en fait, de danse, évidemment, ça on s'en doute, mais plusieurs façons de danser, plusieurs façons de procéder. Il y en a une qui consiste à faire de la danse sportive, on va dire, qui est de la danse de compétition. Et tout de suite, quand on parle de tango, moi, je pense aux grandes compétitions de tango argentin. J'en ai vu d'ailleurs au Gay Games, personnellement. Je vous ai montré les images, ils m'avaient dit c'est très bien ce qu'ils font, mais c'est pas ce que je propose. On voyait donc deux hommes qui dansaient ensemble, mais c'était très travaillé, très chorégraphié. Il y avait un côté un peu guindé. Vous, c'est pas pour que les auditeurs et les auditrices comprennent bien, c'est pas ce que vous proposez là. Qu'est-ce que vous proposez, vous, dans le cadre de la danse de salon? Quelle est la différence entre cette danse que je viens de décrire et la danse, je dirais, tango argentin que vous présentez, qui n'est donc pas de la danse compétitive, de la danse sportive?
Non, pas du tout. Alors, je crois que s'il y avait une phrase pour résumer, je dirais dansez comme vous êtes, venez comme vous êtes, tout simplement. Et le tango argentin ne va pas être chorégraphié, il va être, on va proposer une improvisation, on va vous donner les techniques pour improviser, pour parler, pour avoir une conversation, et ça va être ce regard-là qui va être donné un confort pour tout le monde, que ce soit pour la partenaire, le partenaire, les partenaires de manière générale. Et on va vous donner tous les éléments, la bienveillance pour surmonter la peur qu'on a du tango. Parce que souvent, quand on parle du tango, oh là là, c'est magnifique, mais je ne vais pas y arriver. Alors, moi, je suis là pour vous dire, si tout le monde peut y arriver, et même ceux qui n'ont pas fait de danse, et surtout ceux qui n'ont pas fait de danse, c'est génial. Parce que, justement, vous allez pouvoir apprendre plein de choses. Venez, et le plus dur, c'est d'oser pousser la porte et de faire le premier pas.
Ce que vous faites, ça ressemble un petit peu à du yoga, finalement, puisque il y a beaucoup de choses qui passent. Bon, il y a une connexion, par contre, par rapport au yoga, on est beaucoup plus, c'est beaucoup plus introspectif. Là, on est à deux, c'est un duo, donc il y a quand même une connexion qui doit se faire. Mais il y a une... Vous m'avez parlé de respiration. On respire un bon coup et puis c'est parti, en fait, c'est ça. Puis après, vous nous dites comment faire, donner quelques bases pour pouvoir être à l'aise.
Oui, c'est tout à fait ça. C'est la connexion, en fait, elle va se baser sur la respiration et les changements de poids du corps. Après, on va avoir des outils comme le regard, comme le contact, mais qui ne sont pas nécessaires. Et on va créer cette connexion entre deux personnes, même si elles ne se connaissent pas. On va créer une complicité. On va pouvoir aussi échanger de temps en temps de partenaires pour voir si on réalise bien les séquences. On va partir avec des figures très très simples, des pas de base. Le tango, en fin de compte, c'est une marche. Voilà, c'est une marche dansée. Et quand on marche, on respire, on change le poids du corps. Voilà. Eh bien, on va le faire avec un petit peu plus d'élégance, d'esthétisme. Et puis surtout, on va s'amuser. Voilà.
Alors, pour revenir justement à cette marche dansée, on attribue souvent au tango aussi des vertus un petit peu de séduction. On dit que c'est une danse de séduction. Et quand on parle de séduction, on imagine toujours ces couples mixtes, en fait, où l'homme et la femme sont comme dans des préliminaires, on va dire, quasiment avant de passer à l'acte final, si vous voyez ce que je veux dire. Voilà, c'est les prémices. Alors, c'est l'image qu'on en a. Est-ce que dans ce que vous proposez, vous aussi, cette démarche-là est incluse, je dirais? On ne parle pas de l'acte final, ça regarde tous les participants, c'est leur vie après. Mais est-ce que vous allez parler aussi de cet aspect-là, finalement, qui est un aspect un peu sensuel, quoi?
Alors, le tango, c'est une rencontre entre deux personnes. Pas seulement, c'est une rencontre avec une musique. C'est une rencontre avec un bal, parfois, quand on va danser dans les milongas. Et c'est surtout une danse où on va danser avec des émotions. Alors l'émotion, bien sûr, ça peut être de la séduction, ça peut être de la sensualité, mais pas que. On va danser une émotion, donc ça peut être de la joie, ça peut être de la peine. On peut danser avec amitié, on peut danser avec son frère, sa sœur, avec ses parents. Donc il n'y a pas forcément cette notion de séduction, mais plutôt une notion de bonheur et de sentiment qu'on va essayer de trouver dans la danse. Bien sûr, on ne va pas le trouver tout de suite, parce qu'avant, on va aussi apprendre. Et avant qu'il y ait, si on souhaite, la séduction et la sensualité, il se passe quand même des mois, voire des années, avant de pouvoir mettre ça en place. Voilà. Donc, c'est surtout une danse d'émotion.
Je pense à tous les auditeurs, toutes les auditrices qui pourraient se dire, est-ce que je suis fait physiquement pour faire ça? Par exemple, on voit quand même que les danseurs, encore une fois, on a cette image de danseur svelte, extrêmement élégant. Est-ce qu'une personne qui aurait du poids, par exemple, pourrait franchir le pas et venir vous voir?
Tout à fait. Alors, pour ceux qui ne me voient pas hors antenne...
Vous êtes mince, hein, ça, et svelte.
Oui, mais je fais 1m56. Et donc, je peux danser avec... je danse en tant que cavalier, hein, c'est souvent mon rôle. Et je danse avec des garçons qui font cavalière, ou des femmes qui font cavalière, qui sont souvent beaucoup plus grandes que moi. Donc déjà, au niveau de la taille, y a pas, voilà, on peut danser. Au niveau du physique, le tango est très adapté et très évolutif. Parce qu'en fait, on va aller à son rythme. Je suis pas une prof qui veut des résultats. Moi, je suis là pour vous donner des moyens et vous faire sentir bien et vous mettre en valeur. Donc, si on a une particularité, un handicap provisoire ou permanent, et là, je peux en parler parce que moi, j'ai quelques séquelles suite à un accident. Et pendant 4 ans, j'ai fait de la kinésithérapie et en même temps, j'ai réappris à marcher avec le tango. Donc, ça m'a vraiment aidée à repousser toutes les séquelles que j'avais. Avec mon petit 1m56, j'arrive à faire des portées. Si vous ne croyez pas, venez demain soir, le jeudi soir, on vous montrera un petit porté, je vous porterai, si vous ne faites pas plus de 60 kilos, ça va.
D'accord. Alors vous avez évoqué aussi plusieurs types de danse, donc le tango, mais aussi le bachatango. C'est ça, la bachatango. Quelle est la différence entre les deux, en fait?
Alors, la bachatango est très récente. Elle date des années 2000. C'est né d'abord avec les DJ italiens, donc c'est très européen. C'est un mixte de bachata et de tango. Donc, on va amener des techniques de bachata et des techniques de tango. On va shaker tout ça. On va pouvoir le danser sur des musiques de bachata sensuelles, hein, un peu plus lentes, ou des musiques vraiment ce qu'on appelle bachata tango, qui a une rythmique à la fois de bachata et de tango. Et je crois que c'est une danse assez ludique pour les personnes qui ont peur justement du tango. C'est un premier pas pour aller vers le tango argentin et aussi mixer peut-être des acquis en bachata. Voilà, donc on va amener des techniques de base, de passe, de base, de séquence, de bachata, et on va amener l'improvisation du tango sur ces séquences.
Eh bien Maud, merci d'avoir accepté notre petite interview. Pour terminer, on va rappeler comment ça se passe pour ceux et celles qui voudraient donc participer à vos cours. Ça se passe où? On l'a vu à Confluence. À quelle heure? Quel jour? Pouvez-nous redire tout ça?
Alors, c'est à la MJC Confluence à partir du 13 septembre, le jeudi soir de 18h à 19h pour le cours de tango argentin, de 19h à 20h pour le cours de tango latino, c'est-à-dire bachata tango et kizomba. Ça s'adresse à un public débutant ou intermédiaire, mais bon, je peux m'occuper aussi de personnes plus avancées. Il y aura aussi une initiation gratuite au Festival Kiosque Station Mule samedi 29 septembre de 17h à 18h et on fera une démo de tango argentin et de bachata tango avec Léa Jourdi, ma partenaire de danse, qui sera là exceptionnellement. Donc bah, voilà, on vous attend avec plaisir.
Comment on peut vous contacter? Vous avez un site?
Alors tout à fait Gérald, il y a le site Facebook. Alors sur le site, vous tapez Avenzo avec un Z, -tango-compagnie.com. Comme ça, vous avez mon numéro de téléphone, vous avez aussi le Facebook directement pour nous joindre et nous demander toutes les infos que vous souhaitez. Everyone looks great in a pair of shorts. If you're having fun when you run, if you give it all when you get the ball, never cry, keep the spirit high, never stop till you reach the top in this absolutely wonderful world of sports. Welcome to the wonderful world of sports.
Hey ya, hey ya,
ya, hey 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 ya.